Vous écoutez RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 18 janvier, Alexandre Benalla, tout près d'une mise en examen, l'ancien collaborateur de l'Élysée a été transféré au palais de justice de Paris à propos de l'usage de ses passeports diplomatiques et d'un possible faux en écriture. Le grand débat, Emmanuel Macron poursuit sa tournée à Souillac, cette fois dans le Lot. Les gilets jaunes font déjà face aux forces de l'ordre dans le village. Le chef de l'État a fait un arrêt surprise ce matin dans une école à quelques kilomètres à Saint-Sauzy. La prime d'activité, vous n'avez plus qu'une semaine pour déposer votre dossier et bénéficier du coup de pouce au SMIC. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Solidarité, Christelle Dubos, est l'invitée d'RTL Midi. Elle vous donnera le mode d'emploi. Un nouveau record pour Renault, 3 800 000 véhicules vendus l'an dernier, quatrième année de hausse. Des enfants qui ont du mal à s'exprimer, qui ne répondent même pas aux sollicitations. L'exposition aux écrans fait des dégâts de plus en plus considérables. Les troubles de la parole et du langage chez les moins de 11 ans ont doublé depuis 2010. Le temps, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Beau et froid à la fois.
Oui, et on va pas garder les deux, on va garder le froid, mais on va pas garder le beau. Alors en attendant, donc du coup, on en profite. Il peut rester quelques plaques de grisaille actuellement. C'est le cas en Lorraine, c'est le cas dans les vallées alpines ou encore en midi toulousain. Ça va se lever assez rapidement, mais déjà une nouvelle dégradation arrive. Ça donne quelques pluies actuellement sur le Finistère et le Pays Basque, et c'est toute la façade ouest qui sera concernée d'ici ce soir. Pour les autres, un temps ensoleillé, mais donc ça picote un petit peu. 2 degrés à Metz cet après-midi, 4 à Dijon, 5 à Lille et Paris, 7 à Limoges, 9 à Brest et Biarritz. Il fera 12 à Perpignan et 15 à Bastia.
La question du jour sur RTL.fr. Limitez-vous l'accès aux écrans à vos enfants? Vous êtes 50% à nous dire oui, 26% de non. On attend vos témoignages, vos appels au 3210 sur Facebook et Twitter. Vos réactions, bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle, les écrans sont la nouvelle tétine des enfants, pour reprendre l'expression de Laurent Tessier. Il a bien raison. Est-ce que vous limitez l'accès? Bien, vous nous le direz tout à l'heure. La dépense publique ou faire des économies? Voilà une bonne question. Alexandre Benalla et l'acte 10 des Gilets jaunes au programme des auditeurs tout à l'heure.
RTL Midi.
Alexandre Benalla est donc au palais de justice de Paris. L'ancien conseiller d'Emmanuel Macron avait déjà été mis en examen en juillet pour avoir fait le coup de poing contre des manifestants le 1er mai. À l'époque, Emmanuel Macron avait dit lors d'une réunion de crise, il n'y a pas eu, il n'y aura pas d'impunité. Et bien 6 mois plus tard, le même Alexandre Benalla risque donc une nouvelle mise en examen, cette fois pour avoir usé et abusé de ses passeports diplomatiques après avoir quitté l'Élysée, Olivier Bois.
Oui, après 24 heures de garde à vue, Alexandre Benalla est au dépôt du palais de justice en ce moment, d'après nos informations, en attendant d'être entendu par un juge d'instruction cet après-midi en vue de sa mise en examen. Il est soupçonné d'une part, vous l'avez dit, de s'être servi de ses passeports diplomatiques une vingtaine de fois depuis cet été, alors qu'il avait quitté l'Élysée et qu'il n'avait donc plus aucune fonction l'autorisant à se servir de ses documents officiels. Alors a-t-il utilisé ses passeports, entre autres, pour faire croire, notamment pendant des voyages en Afrique, qu'il avait toujours des fonctions importantes au cœur de l'État et pour faire fructifier ainsi ses affaires de conseil dans le privé? Là aussi, les enquêteurs se posent la question. Et puis, dernière chose, dernier rebondissement en date dans cette enquête, l'Élysée affirme depuis mercredi soupçonner Benalla d'avoir falsifié un document de la présidence de la République pour obtenir justement ses passeports de service dont il se servait abusivement. Voilà autant de motifs graves que pourraient retenir les juges pour mettre en examen tout à l'heure Alexandre Benalla.
Olivier Bois, en direct du Palais de Justice de Paris pour RTL. 14 personnes renvoyées aux assises par les juges antiterroristes. Elles sont soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique aux auteurs des attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher qui avaient fait 17 morts en janvier 2015. 11 personnes sont déjà aux mains de la justice. 3 font l'objet d'un mandat d'arrêt et l'enquête se poursuit notamment au Yémen sur les soutiens des frères Kouachi. Emmanuel Macron, épisode 2 contre Gilets jaunes, acte 10. Le chef de l'État, rasséréné par son premier exercice de questions-réponses avec les maires en Normandie, récidive tout à l'heure à Souillac dans le Lot. Ça fait 103 ans qu'un président de la République ne s'est pas déplacé dans cette petite ville qui compte 3500 habitants. La dernière fois, c'était Raymond Poincaré. Un gros dispositif de sécurité a été mis en place pour repousser les Gilets jaunes qui leur font face, Patrick Hisson.
Oui, et le climat s'est un peu tendu vers 10h30 ce matin lorsque la centaine de Gilets jaunes qui attendaient non loin de la salle qui accueillera le débat de cet après-midi, a été repoussé mètre par mètre dans la rue principale qui traverse Souillac. De longues minutes qui n'ont pas été du goût, évidemment, des manifestants.
Faut le lui dire à Macron, ça finira mal ce problème. Il vous dit, moi c'est une honte, on arrive à 66 ans pour voir ça dans la rue.
Je vois pas pourquoi on nous fait reculer. Là, on nous a dit 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres. Je sais pas jusqu'où on va reculer. Enfin, voilà, Souillac, c'est ville morte aujourd'hui. Je sais pas ce que cherche le gouvernement.
Et tous ces manifestants qui espéraient au moins voir passer le président de la République ont été repoussés à près de 500 mètres des gilets jaunes de Souillac, comme Pascal.
On nous bouscule pour rien, quoi. Je trouve ça lamentable. Surtout pour une ville comme ici. On se connaît tous, 3500 habitants, 1000 policiers, ils ont peur de quoi?
Et tout autour de la ville, tous les points d'accès ont également été bloqués par les forces de l'ordre qui ne laissent passer que les invités au débat et les habitants de Souillac s'ils ont sur eux un justificatif de domicile.
Patrick, ils sont en reportage pour RTL à Souillac. Le chef de l'État s'est arrêté ce matin à l'école de Saint-Sauzille dans le Lot, un petit peu plus loin, qui regroupe 4 communes. Il a rencontré les enseignants et a dialogué avec les élèves d'une classe de CE1, CE2. 2 mois maintenant que les gilets jaunes sont mobilisés. Demain, ce sera donc l'acte 10. Quel est le dispositif de sécurité, Alice Moreno ?
Eh bien, il devrait être similaire à celui de samedi dernier. 80 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire. Parmi eux, 5 000 rien que dans Paris et déjà dans la capitale. Au moins un rassemblement est prévu dans le secteur des Invalides en fin de matinée. En tout cas, c'est la seule manifestation déclarée auprès de la préfecture à cette heure-ci. Et son parcours demeure relativement flou. Mais sur les réseaux sociaux, des organisateurs indiquent un départ sur l'esplanade des Invalides, donc, et la suite du tracé dans le 6e arrondissement autour du jardin du Luxembourg avant de traverser les 13e et 14e arrondissements. Comme les semaines précédentes, la préfecture n'exclut pas d'autres rassemblements non déclarés et mise donc sur la mobilité des forces de l'ordre. Quoi qu'il arrive, le secteur bas des Champs-Élysées fera l'objet d'un périmètre d'exclusion dès 6h du matin et la présence policière sera particulièrement importante autour des institutions.
Quant à l'utilisation des lanceurs de balles de défense qui ont fait une centaine de blessés depuis le début du mouvement, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, affirme que c'est seulement un moyen de défense. Nous avons besoin de pouvoir utiliser des lacrymogènes comme des LBD, a-t-il expliqué. Ce sont des armes de protection et de neutralisation face à des assaillants. Fin de citation. Dans un instant, la prime d'activité, dépêchez-vous de vous inscrire.
RTL Midi avec Christelle Robière.
Une augmentation du SMIC via la prime d'activité. Souvenez-vous, c'était l'une des annonces phares d'Emmanuel Macron en décembre pour calmer la colère des gilets jaunes. Une prime survitaminée et élargie, censée concerner non plus 3 800 000 foyers, mais 5 millions. Les demandes affluent depuis plus d'un mois auprès des caisses d'allocations familiales. Et pour faire le point, nous sommes avec Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour.
Bonjour.
On disait il y a quelques jours que les primes d'activité avaient été multipliées par 6. Est-ce qu'on est toujours sur ce même chiffre ?
Oui, nous sommes sur un chiffre de plus de 30 000 demandes faites par jour et traitées par la CAF. Donc plus de 300 000 dossiers traités depuis le 1er janvier. Donc c'est une bonne nouvelle. Les Français se saisissent des mesures que l'on a prises pour eux et pour leur pouvoir d'achat.
Alors soyons concrètes, qui peut en bénéficier ?
Écoutez, vous avez un simulateur qui est en ligne depuis le 1er septembre. Je vais peut-être donner un exemple concret. Vous prenez une personne qui est au SMIC et qui est célibataire. Elle peut prétendre à la prime d'activité puisqu'elle aura une prime d'activité à peu près de 241 euros en plus. Nous avons donc en effet élargi les allocataires et les personnes qui peuvent en bénéficier puisque pour cette personne célibataire, jusqu'à présent, c'était jusqu'à 1500 euros et maintenant, ce sont jusqu'à 1800 euros. Et ce que je voudrais surtout préciser, c'est que ce sont tous les Français qui peuvent en bénéficier. Je pense au secteur du privé, je pense aux fonctionnaires et au secteur donc du public, mais également aux artisans, agriculteurs et indépendants qui peuvent demander en effet leur prime d'activité. Et puis peut-être un dernier point, c'est que en effet plus que 6 jours pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité pour avoir un versement au 5 février. Oui. Et l'ensemble des Françaises peuvent faire leur demande tout le long de l'année puisque des situations évoluent, mais leur dossier sera pris en compte le mois suivant. Donc on est vraiment sur
une flexibilité. D'accord. Donc si on est un petit peu en retard, on perd juste un mois. Quelle démarche faut-il réaliser ?
Sur le site de la CAF, une simulation qui vous permet après de cliquer, je dirais, sur votre dossier qui est systématiquement et automatiquement envoyé à la CAF qu'elle traite dans les jours qui suivent. Donc vraiment une démarche très simplifiée. Et puis si vous avez des personnes qui n'osent pas ou qui ne savent pas, vous avez tous les services d'accompagnement et dans les points CAF sur lesquels vous pouvez faire votre demande et vous serez accompagné par les agents et que je voudrais remercier pour leur travail et leur implication parce que cette mesure fonctionne très bien et ils sont aussi liée au fait que cette mesure fonctionne bien.
Une chose quand même qui risque d'être un petit peu compliquée, c'est qu'il va falloir refaire cette demande tous les 3 mois. Pour quelle raison ?
Non, alors ce n'est pas refaire la demande, c'est une prestation qui est versée en fonction d'une déclaration trimestrielle qui prend en compte les ressources. Oui. Cette déclaration trimestrielle, vous devez la remplir donc une fois par trimestre, qui calcule vos droits sur le trimestre suivant. Nous travaillons justement à ce que les services informatiques de la CAF et les services informatiques des régimes fiscaux puissent se parler, puissent mieux se parler, de façon à ce que les Françaises et les Français n'aient plus cette déclaration trimestrielle. Et c'est quelque chose qu'on verra certainement sur une mise en œuvre en 2020.
Pour l'instant, il faut quand même le faire. Autre petite question, est-ce que vous craignez pas que ça favorise le travail au noir ?
Non, absolument pas, parce que dès lors que vous avez un régime fiscal qui permet et qui prend en compte la situation familiale, qui prend en compte la situation du conjoint, le nombre d'enfants, cette prime d'activité répond vraiment aux besoins et on voit bien, puisque les Français s'en saisissent concrètement, donc pas de travail au noir, nous favorisons justement la valorisation du travail au quotidien qui permet de pouvoir qui permet aux Français de pouvoir avoir un pouvoir d'achat plus important. Donc nous sommes vraiment sur une mesure au plus juste en fonction des besoins et des situations de chacun.
Il y a encore beaucoup de foyers qui n'ont pas déposé leur dossier. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Ce qu'on leur dit, c'est que bien évidemment, il faut qu'ils fassent leur demande. Notre objectif est que 100% des Français qui peuvent en bénéficier la demande. Et puis de dire, c'est une mesure qui a été votée et qui a été demandée par les Français. Donc une mesure que nous avons mise en place et qui répond à un besoin concret. Nous sommes là, nous allons lancer en plus de ça, une campagne de communication encore un peu plus incisive, je dirais, pour inciter les Français à la demander. Ce que l'on voit également dans les demandes, c'est que c'était des Français qui auraient pu en bénéficier en 2018, qui n'en avaient pas connaissance et qui font aussi la demande maintenant.
Qui ne le savaient pas. Et maintenant, ils le savent. Merci beaucoup, Christelle Dubeau, d'avoir été l'invitée d'RTL Midi. Merci, bonne journée.
Merci.
Carlos Ghosn n'est décidément pas prêt à sortir de prison. Le groupe Nissan envisage de déposer une plainte pour récupérer quelques 8 millions d'euros que le patron de l'Alliance se serait versé via une filiale établie aux Pays-Bas avec Mitsubishi. Et pendant ce temps-là, le groupe Renault engrange des records. Les ventes de véhicules ont encore progressé de 3,2% l'an dernier à 3 880 000 voitures vendues, Christophe Bourroux.
Et de 6e année consécutive de hausse. Et cela grâce d'abord au carton de ses marques à Bakou, ainsi Dacia progresse encore et toujours, plus 7%, et Lada fait un bond de 18%. La marque Renault, elle, est en baisse de 5%. Il faut dire que son modèle phare, la Clio, doit être renouvelé cette année. Ce qui n'empêche pas de très bons scores dans certains grands pays comme la Russie ou le Brésil, plus 12%. Des gros volumes qui compensent l'arrêt des ventes en Iran, où la Renault a perdu 60 000 voitures en raison de l'embargo américain. En revanche, la marque aux losanges, qui a tout misé, enfin en grande partie sur l'électrique, se frotte les mains, les ventes décollent, selon Olivier Murger, à la tête du commerce du groupe.
On note la très très bonne performance du véhicule électrique, hein, qui décolle vraiment, ça y est, c'est parti quoi. 37% de hausse des ventes, 62% sur le deuxième semestre. Donc là, le véhicule électrique est devenu un vrai pilier de Renault, qui est d'ailleurs leader en Europe avec 22% par le marché.
Et ces bons résultats permettent à Renault de rester tout juste devant PSA, comme c'est le cas depuis 2016, avec d'ailleurs une barre symbolique qui vient d'être franchie, puisque Renault réalise désormais plus de la moitié de ses ventes hors Europe, alors qu'au contraire, les ventes de PSA, elles ont gonflé en Europe, où elles dépassent les 80%.
Et on retient effectivement que les voitures électriques, c'est quand même la nouvelle tendance. Cette fois, c'est sûr. L'avenir se conjugue au présent pour les élèves de seconde, avec la mise en place de la réforme du bac. Puisqu'il n'y aura plus de filières S, E, S et L, ils doivent désormais choisir des spécialités. Et ils s'interrogent beaucoup, comme Anna, 15 ans.
Moi, je vais faire maths, physique, chimie. Après, je ne sais pas si je vais faire SVT, parce que je vais être pilote d'hélicoptère. Et du coup, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, SVT.
Qu'est-ce que tu pourrais prendre d'autre, par exemple ?
Les autres matières, je les aime pas.
Alors, pour répondre aux questions d'Anna, l'ONICEP vient de mettre en place, Marie Guerrier, un site pour aider les lycéens à choisir leurs trois spécialités pour la classe de première.
Oui, parce qu'avec les filières, c'était finalement plus simple. Pour être pilote, par exemple, il fallait faire un bac scientifique. Hop, filière S. Désormais, les élèves se demandent quelle combinaison de spécialités serait la plus judicieuse. Comment allier les matières qui paraissent incontournables avec les matières qu'ils préfèrent. Valérie Mérignac, prof principale d'une classe de seconde au lycée Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés, essaie de les guider.
Vraiment, leur interrogation, c'est ça. C'est spécialité, avec mes enseignements de spécialité, est-ce que je ne vais pas perdre la possibilité d'accéder à certains métiers que pour l'instant je n'ai pas encore envisagé, mais je les envisagerai peut-être après le baccalauréat.
Élèves et profs ont commencé les simulations sur le site horizon2021.fr. On clique sur 3 spécialités parmi les 12 proposées et on voit apparaître les possibilités de formation post-bac, de métiers qui découlent de tel ou tel choix. Michel Quéré est le directeur de l'ONICEP qui pilote le site.
C'est tout l'enjeu de cette réforme du lycée, d'ouvrir le choix des possibles pour les jeunes. C'est par la diversité d'un certain nombre de combinaisons qu'ils peuvent se retrouver dans une trajectoire variée finalement vers l'enseignement supérieur.
Au retour des vacances d'hiver au conseil de classe du deuxième trimestre, il faudra formuler jusqu'à 4 ou 5 vœux et puis c'est en juin qu'il faudra vraiment trancher et n'en garder que 3.
Merci Marie Guerrier. Les écrans à consommer avec modération, surtout pour les plus petits, on en parle dans un instant.
RTL Midi avec Christelle Robière.
Un coup de gueule a attiré notre attention dans RTL Midi. Une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, signée par des professionnels de la santé des plus petits. Les écrans nuisent gravement à la santé de nos enfants. Depuis 2010, les troubles de la parole et du langage ont bondi de 94% chez les 3-11 ans. Ça veut dire qu'ils ont quasiment doublé. Les troubles psychiques de 54%. Et ce sont des chiffres fournis par l'Éducation nationale. D'où cette tribune intitulée Qui défend-on, les enfants ou l'industrie du numérique? Eh bien, nous sommes en ligne avec l'une des signataires, le docteur Anne-Lise Ducanda, médecin de la protection maternelle et infantile. Bonjour.
Bonjour.
Vous aviez lancé, on s'en souvient, un cri d'alerte il y a presque 2 ans sur les dangers d'une exposition massive et précoce des écrans. Ces chiffres inquiétants ne vous surprennent pas?
Non, puisque c'est ce qu'on dit depuis donc maintenant 2 ans avec le collectif Cause. C'est ce qui nous est remonté de nos cabinets et c'est ce qui nous est remonté de très nombreux enseignants dans l'éducation nationale et de professionnels de santé.
Concrètement, ça se manifeste comment? Ce sont des enfants qui présentent par exemple des troubles de type autistique?
Alors, vous savez que ça a fâché qu'on parle de ça. Donc, c'est des enfants. Le lien et l'attachement peut pas se faire précocement entre les parents et l'enfant parce que les parents sont sur leurs écrans, les enfants sont sur leurs écrans et le processus d'attachement et de lien ne peut pas se faire. Et donc, l'enfant est isolé dans sa bulle. Mmh. Voilà. On a aussi des troubles de l'attention, des enfants qui ne comprennent pas, des retards cognitifs importants, ils ne comprennent pas des consignes qu'un enfant normalement doit comprendre à 18 mois, mais ils ne comprennent pas à l'école. Et des retards de langage et des langages plaqués, les enfants parlent comme sur leurs écrans. Mmh. Par exemple, il va faire purple, pink, blue, comme le petit répète après sa tablette. On a de plus en plus de violence, même chez les tout-petits. Des enfants qui s'étranglent, qui s'écrasent, etc. On a de plus en plus d'agressions sexuelles, même chez les maternelles. Hein, donc j'ai plusieurs remontées d'agressions sexuelles chez des enfants de 3 ans. Donc on a des signes là, d'alerte, et donc on voudrait que le gouvernement puisse réagir. Alors vous savez qu'il y a eu un projet de loi proposé par le Sénat qui a été refusé par le gouvernement pour protéger les enfants. Or les études sont multiples, des dizaines et dizaines d'études qui montrent les effets d'une surexposition aux écrans chez les enfants.
Oui, alors le problème c'est la surexposition, et en même temps il ne faut pas les priver du numérique, parce que c'est un outil majeur pour leur avenir, et c'est pour ça que l'éducation nationale veut développer de plus en plus l'usage des écrans à l'école. Vous êtes d'accord
avec
ça?
Alors, il faudrait déjà, tous ceux qui sont pour développer les écrans à l'école sur les deniers publics doivent faire la preuve de l'intérêt de ces écrans dans l'apprentissage. Or, il n'y a aucune étude, Monsieur Dehaene l'a dit, hein, aucune étude qui n'a montré l'intérêt des écrans dans les écoles. Mmh. Et c'est faire naître un désir maximal pour cet outil. Et puis,
mais c'est aussi apprendre, c'est aussi apprendre à manipuler un outil qui sera essentiel dans leur avenir.
Il ne faut pas penser que plonger le tout petit dans un bain numérique le prépare à prendre part à la société numérique qui sera la sienne à l'âge adulte.
Donc il faut responsabiliser les parents.
Alors responsabiliser les parents, encore faut-il qu'ils soient informés. Les parents sont persuadés que c'est éducatif. Moi j'ai un papa qui m'a dit, notre enfant était toute la journée à 2 ans sur la tablette parce qu'on était persuadés qu'il était en train d'apprendre et que c'était bon pour lui. Il connaissait l'alphabet en 3 langues et comptait jusqu'à 100 en 3 langues. Mais l'enfant ne regardait pas dans les yeux, ne parlait pas, avait des gestes anormaux. Donc vous voyez, les parents ne sont pas informés. On demande des campagnes massives, mais elles n'existent pas. Elles n'existent pas.
Alors, depuis l'année dernière, quand même, le carnet de santé mentionne que les écrans sont déconseillés avant 3 ans. C'est déjà ça, j'ai envie de vous dire.
Alors, tout à fait. mais qui lit la page 14 du carnet de santé? Ben, je peux vous dire que dans mes conférences, je lève la main, il y a un parent. Les parents sont persuadés des effets éducatifs, du préparer l'enfant au monde de demain, et beaucoup plus que des effets négatifs. C'est pas du tout un jouet comme un autre, hein. Ça accroche l'enfant, il est complètement capté, il a plus envie de rien faire d'autre, et c'est extrêmement compliqué pour les parents d'arriver à limiter les écrans. Il faut les informer et les aider par des campagnes massives.
Merci, merci docteur Annelise Ducanda d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Il n'y a plus de Françaises à l'Open d'Australie. Caroline Garcia a été sortie par l'Américaine Collins en 2-7, 6-3, 6-2. Il ne reste plus que deux garçons en lice, Lucas Pouille et Pierre-Hugues Herbert. Robert Redford recevra un César d'honneur le 22 février prochain lors de la prochaine cérémonie. L'acteur américain qui a aujourd'hui 82 ans est une icône. Comment oublier Gatsby le Magnifique, Jeremiah Johnson, Les Hommes du Président et surtout ça. Africa, est-ce que ça vous parle, Pascal?
Magnifique Robert Redford, avec magnifique.
Est-ce que vous vous souvenez de ce moment particulièrement torride où il lave langoureusement les cheveux de Meryl Streep?
Je m'en souviens et rien qu'en en parlant, ça crée chez moi quelque chose. Mais je souriais parce que vous disiez il n'y a plus de Français engagés. C'est quasiment une des phrases les plus célèbres des journalistes. Il n'y a plus de Français engagés dans un tournoi du Grand Chelem. On n'a pas dû gagner un tournoi du Grand Chelem depuis 40 ans.
Bon, vous lancez le débat sur le tennis alors?
Non, pas du tout. En revanche, j'ai écouté... Madame
Ducanda,
exactement. Et c'est vrai que ça fait peur. Voilà. Oui. Je pense que tous les gens qui ont dû écouter ça disent que ça fait peur. Parce qu'en plus, on se souvient comment on a été élevés, nous. On faisait du sport toute la journée, on était dehors toute la journée, etc. On n'était pas en permanence devant des écrans. Donc, quel monde est en train de grandir sous nos yeux? C'est une question à la fois banale, mais sur laquelle vous pourrez intervenir entre 13h et 14h. La dépense publique également au menu. Où faire des économies? Visiblement, c'est pas simple. On pourra parler de l'affaire Benalla, si vous le souhaitez, de l'acte 10 des Gilets jaunes, tous les sujets possibles. Si on pouvait être de temps en temps un peu positif dans nos sujets, les auditeurs peuvent appeler sur des sujets peut-être plus légers, pourquoi pas, mais l'actualité, elle n'est pas amusante.
Allez, à tout à l'heure, dans une dizaine de minutes. On parle du ciel, Valérie Quintin.
Oui.
Prenons la lumière.
Oui, pendant qu'il est temps, puisqu'une nouvelle dégradation est déjà en embuscade, ça donne quelques nuages le long de la façade atlantique, alors qu'il est partout ailleurs l'après-midi. Sera très ensoleillé. Cette dégradation ne provoquera que quelques pluies sur la pointe bretonne et sur le Pays Basque en particulier, un petit peu plus tard, donc sur toute la façade atlantique. Les températures, elles ont baissé. 2 degrés à Nancy cet après-midi, 3 degrés à Besançon, 4 à Lyon, 5 à Cherbourg, 9 degrés à Paris et à Toulouse, 13 degrés à Nice.
Et puis le petit conseil pour le week-end, sortez couvert.
Oui, sortez couvert parce que déjà demain il va faire beaucoup plus froid dès le matin. Dégelé autour de moins 4 à moins 5 au réveil dans l'Est. Il fera moins 1 degré à Paris comme à Montpellier d'ailleurs. Dans l'après-midi, fourchette de 1 à 13 degrés du plateau de Langres à la Corse. On notera une légère hausse des températures pour la journée de dimanche. Côté ciel, la dégradation qui arrive aujourd'hui va traverser le pays demain. Et du coup, avec la baisse des températures, il faut être prudent, on pourrait avoir des phénomènes glissants, voire un peu de neige au réveil sur la Normandie, la Picardie, le Nord et puis vers le Nord-Est dans le courant de l'après-midi. Dégradation qui traînera encore un peu. Elle est vraiment pas rapide sur la journée de dimanche, mais ce sera surtout sous forme de nuages. Avant et après son passage, on peut espérer des éclaircies.
Et après, la semaine prochaine?
C'est une semaine à la neige. Alors on va vraiment peaufiner parce que là, pour le coup, il pourrait y avoir pas mal de neige en plaine aussi et ça pourrait concerner beaucoup de régions.
Ça va être important. Il va falloir être précise.
C'est ça.
Merci Valérie. Il est 13h.
Le Tout Info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Quentin Vinet.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin dans une école intercommunale à Saint-Sauzy. C'est dans le Lot. C'était une visite surprise. Le président a été accueilli par la directrice de l'établissement en plein cours de mathématiques, interpellé à la sortie par un retraité qui avait sur lui ses feuilles de pension.
Je ne paye pas d'impôts.
Vous êtes en dessous de 2000 euros.
Exactement.
On va revenir. Normalement, vous retrouvez votre 31 décembre 2017. C'est-à-dire que toutes les infirmières, tous ceux qui travaillent, ils ont eu leur pouvoir d'achat qui a augmenté. Et on a demandé. Les retraités qui étaient en dessous de 1200 euros n'ont pas vu leur CSG bouger. Au-dessus de 1200 euros, la CSG a augmenté d'un pincet.
Vous êtes d'accord avec moi?
Vous ne manifestez pas, vous venez me poser la question très gentiment. Donc, ceux qui sont en dessous de 2000 euros, on va revenir à la CSG d'avant. Parce que c'était un trop gros effort qui était demandé. Voilà. Donc vous êtes dedans. Dès janvier, la CSG va revenir au niveau de 2017. Et ce sera remboursé, je pense, sur avril-mai, le temps qu'ils changent les tuyaux.
On va tous s'y mettre, dit le président qui vient de remonter dans sa voiture. Visite surprise donc ce matin avant son deuxième grand oral dans le cadre du débat national. Emmanuel Macron fera face à 600 élus de tous bords politiques cet après-midi dans la commune de Souillac. Commune complètement bouclée depuis ce matin, marché annulé. Quelques gilets jaunes se sont rassemblés dans la matinée avant l'acte 10 demain au départ des Invalides à Paris. Le dispositif de sécurité sera le même que la semaine dernière. Christophe Castaner lui défend l'usage des lanceurs de balles de défense, les LBD. Selon lui, il y aurait beaucoup plus de blessés s'il n'était pas utilisé. Le défenseur des droits demande pourtant la suspension de ses armes, accusées d'être à l'origine d'une centaine de blessures graves ces dernières semaines. Le ministre de l'Intérieur qui en profite pour dénoncer tous ceux qui utilisent la violence.
Il y a eu l'acte 1, l'acte 2. Nous atteignons maintenant des actes à deux chiffres. Il s'agit d'un rituel. Un rituel parfois violent, parfois moins. Parfois mobilisateur, parfois moins. Nous respecterons toujours le droit de manifester, mais jamais, jamais celui de détruire. Toutes les violences sont inacceptables, mais certaines me donnent la nausée. Caillasser un véhicule de sapeurs-pompiers, l'empêcher, comme au Puy-en-Velay, d'intervenir sur l'incendie d'une préfecture, viser ceux qui demain, peut-être, risqueront leur vie pour vous sauver. C'est simple, c'est ignoble. Le savent-ils seulement ? Il n'y a aucune tolérance pour ceux qui vous attaquent. Aucune.
Le ministre co-animateur du débat, Sébastien Lecornu, appelle sur RTL à la fin des manifestations violentes pour laisser place au débat. Mais la CGT ne veut pas l'entendre et appelle à la grève le 5 février prochain pour réclamer une nouvelle hausse du SMIC et une réforme de la fiscalité. Voilà ce qu'en dit Benjamin Hamard du syndicat.
Le gouvernement a envie de siffler la fin de la récréation. Il a envie de dire aux gens, effectivement, cessez de vous mobiliser et venez débattre. En réalité, c'est un miroir aux alouettes. L'heure est à la mobilisation. C'est une journée de mobilisation et de grève qui est indispensable parce que le gouvernement n'a pas décidé de changer de cap. Dès lors que le gouvernement ne met pas sur la table des propositions vers une politique beaucoup plus sociale, beaucoup plus juste socialement, eh ben, il n'y a aucune raison de débattre. Par contre, il y a toujours beaucoup de raisons de mobiliser. La convergence des colères, c'est ce qu'il faut faire.
Il y aura bien un procès aux assises. 4 ans après les attentats de janvier 2015, 14 personnes viennent d'être renvoyées par les juges antiterroristes soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique. Une nouvelle mise en examen se profile pour Alexandre Benalla. L'ex-collaborateur de l'Élysée a été déféré au parquet de Paris ce matin. Après sa garde à vue dans l'enquête sur l'utilisation de ses passeports, après son limogeage cet été. Et puis le point à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Sylvie, c'est une fin de semaine ensoleillée à la Bourse.
Et oui Quentin, on a ouvert sur une petite hausse. Et ça s'est accéléré en matinée, plus 5,6% maintenant, 4872, et le phénomène est général. Londres, Francfort, Wall Street hier, les places asiatiques ce matin, tout ça, ça monte fort. Les marchés sont portés par l'espoir d'une prochaine résolution du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Selon le Wall Street Journal, le secrétaire au Trésor, un peu l'équivalent de notre ministre des Finances, serait favorable à une levée des droits de douane sur les importations chinoises aux États-Unis. Et cette information, pourtant démenti, a suffi pour enthousiasmer les boursiers, c'est dire si ce sujet est sensible à 2 semaines de l'arrivée du vice-premier ministre chinois à Washington pour de nouvelles discussions. La bourse observe aussi les résultats des entreprises. Regardez, Casino a annoncé son chiffre d'affaires annuel. Il a indiqué ne pas avoir trop souffert du mouvement des gilets jaunes. Il a confirmé ses objectifs annuels et le titre s'est envolé de 6,5%.
Sylvie Aubert, 13h05 sur RTL. Pascal Praud est en place. Il attend vos appels au 3210.